Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Toute une vie. Il est considéré comme le précurseur de la science-fiction en France. Écrivain, journaliste, chroniqueur et scénariste de films, ses œuvres sont empreintes d'anticipation et de science-fiction, exprimant l'angoisse ressentie devant une technologie que l'homme ne maîtrise plus. Aujourd'hui, Romain Weber et Yvon Croisier vous proposent René Barjavel, 1911-1985, c'est toute une vie à imaginer les ravages de notre temps.
René Barjavel, écrivain. C'est ce qui est gravé sur sa tombe. Et je pense que c'est en tant qu'écrivain qu'il a voulu être reconnu. Mais aussi, il a été journaliste. Il a dit dans une interview que, en fait, la meilleure forme de journalisme, c'est peut-être le roman. Quand on lit ses romans, évidemment, c'est inventé, mais c'est aussi très décrit comme un reportage. Et le meilleur livre qu'il faut lire si on veut avoir et garder une image aussi juste que possible de Barjavel, c'est son dernier livre, « Demain le paradis », qui envoie valser toutes les idées qu'on peut avoir sur Barjavel anti-progrès, Barjavel réactionnaire.
René Barjavel, le monde dans le pétrin.
Alors, il faut passer au sous-sol.
Yvon Croisier, Romain Weber.
Donc vous voyez, c'est pas très chaud. Alors ça, c'est vraiment ma vitrine barjavélienne. Donc il y a toutes les œuvres. Je les ai dans toutes les éditions, depuis le tout premier Colette à la recherche de l'amour, 1934.
C'est son premier ouvrage, ça.
Premier ouvrage, oui. C'est pas un roman, c'est un petit texte sur Colette, une conférence qu'il avait donnée à Vichy et Moulin. Jusqu'à Demain le paradis, et puis j'ai par là deux ou trois cartons qui sont pleins d'autres éditions de tous les livres.
Pierre Creveuil, demain, ça fera 20 ans jour pour jour que vous aurez lancé le Barjaweb, qui est un site où vous documentez, avec d'autres collaborateurs, la vie, l'œuvre de René Barjavel. Là, on se trouve chez vous, dans votre sous-sol, face à une vitrine où il y a eu une centaine de livres. Combien est-ce que vous en avez en tout de livres de Barjavel ?
150, je dirais. Mais les autres, comme j'ai, sont dans des cartons. Et attendent peut-être une autre vitrine.
René Barjavel, c'est un auteur qui a été très prolifique en termes de romans, mais sa vie personnelle, finalement, on sait assez peu de choses.
Alors, il est né à Nyons, une petite ville, une sous-préfecture de la Drôme provençale. Il est né en 1911 et ses parents étaient boulangers. Ses grands-parents et ancêtres étaient paysans, comme il le dit. Il n'aimait pas le terme d'agriculteur, ils étaient paysans, c'est-à-dire attachés à un monde rural.
On retourne en haut.
Quand je regarde la piste que j'ai tracée, sachant que maintenant je ne l'allongerai plus beaucoup, je suis content. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais de la satisfaction, simplement. J'avais choisi un métier, et dans ce métier, j'ai fait de mon mieux ce que j'avais à faire. J'aurais certainement fait de même si j'étais devenu boulanger dans la maison de mon père. Je me serais appliqué chaque jour à faire du pain mangeable. Et si possible, en plus, nourrissant.
fait beau, oui, oui, il y a un grand soleil. C'est l'été, un peu frais, mais il fait bon.
Dites-moi, Jean Barjavel, oui. Qui est-il votre père ?
Qui est-il mon père ?
Oui.
Ah ben ça, c'est une bonne question. C'est un écrivain, évidemment, mais c'est surtout un homme, un vrai homme. Voilà, c'était. Mais ça le demeure par ses écrits. Voilà, quand on lui disait « Maître, vous avez une imagination extraordinaire », il disait « Non, j'ai pas d'imagination, je regarde les choses, et puis je réfléchis un peu, et puis voilà. » En fait, il raisonnait par, comment on dit en philosophie, par induction.
Jean Barjavel, vous dites qu'on l'appelait maître. Qu'est-ce qu'il appelait comme ça ?
Oh ben des couillons, nos voisins, des gens comme ça, maître, voilà, ça l'horripilait, voilà, puisque, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un surdoué, hein. Il avait appris à lire tout seul, quand il est rentré à l'école, il lisait, il avait déjà lu des bouquins, il avait lu Balzac, Dumas, il avait lu Hugo, il avait avalé déjà une bibliothèque. Il lisait tout, le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne, tout ce qui pouvait être lu, je lisais. Moi, j'ai toujours vu des lutrins dans pratiquement toutes les pièces de nos maisons où il lisait. Quand il ne lisait pas, il écrivait. Voilà, c'était un homme, comment dirais-je, immensément respectueux de la liberté de chacun, d'une grande simplicité, non affectée, hein, je veux dire, c'était dans sa nature. Voilà, il était d'extraction modeste, donc il savait ce que c'était que le travail, il savait ce que c'était que la peine. Voilà.
Pierre Creveuil, est-ce que c'est important pour René Barjavel de revendiquer cette appartenance, cet héritage boulanger et paysan ?
Alors déjà c'est important, je dirais presque quantitativement, parce que dans son œuvre il en parle beaucoup. Son livre « La charrette bleue » raconte son enfance dans la boulangerie de ses parents et comment il y a appris des choses de la vie, la lecture, etc. Et puis, ça l'a quand même attaché, oui, à un monde rural dont il est parti, puisqu'il a continué ses études dans l'Allier, donc dans une autre ville à Cusset, près de Vichy. Il a commencé à s'éloigner du monde rural, et quand il est monté à Paris en 1935 pour entrer directement dans le monde de l'édition, c'était un peu un déchirement et dont il s'est jamais remis. Il le reconnaît souvent dans des interviews qu'il est à cheval entre deux pensées, deux mondes, le monde urbain et le monde de la campagne. Et que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile à vivre pour lui.
Sa planche de salut, c'était le travail. Voilà, il travaillait.
Jean Barjavel.
Je l'ai jamais vu prendre une journée de repos. C'était le bureau, la page blanche. Il écrivait en essayant d'être simple, d'être clair. Il était René Barjavel, il savait écrire, il le savait. Et il écrivait pour ses contemporains. Pour essayer de rapporter un peu de fantaisie, un peu de joie de vivre, un peu de matière à réflexion, mais de façon pas trop rébarbative. Voilà, c'était son. Genre, les gens qu'il appelait maître, c'est des gens qui n'avaient pas compris tout à fait ça, et qui faisaient des ronds de jambes, quoi. C'était pas son genre.
Voilà. Il est devenu écrivain, donc, en commençant à être journaliste. À Cusset, après des petits métiers insignifiants, il a été employé au Progrès de l'Allier. Alors c'était un petit journal local, mais un quotidien. Donc tous les jours, il tirait à 20 000 exemplaires, mais tous les jours. Et dès le premier jour, il a écrit son petit billet, c'est-à-dire ses pensées sur l'actualité. Bon, j'ai ces textes, je suis allé à la Bibliothèque nationale relever les articles au Progrès de l'Allier, c'est assez naïf, mais on reconnaît déjà la patte de Barjavel. Après, il couvrait un petit peu l'actualité locale, et en 1935 est venu donner une conférence Robert de Noël, et Barjavel l'a interviewé, ils ont sympathisé, et Robert de Noël lui a proposé de venir travailler chez lui, aux éditions de Noël, à Paris. Et c'est comme ça qu'il est, comme on dit, monté à Paris.
Et c'est comme ça qu'il a commencé sa vie, de sa véritable vie d'écrivain. Voilà, donc quelques mois après, il porta de Noël un manuscrit. De Noël le lit dans la nuit, il l'appelle le lendemain, lui dit « Votre truc, bon, c'est bien écrit, mais c'est pas un roman, ça peut pas se vendre comme un roman. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, un roman. » Il lui explique comment ça marche, il lui dit « Voilà, je vous rends votre manuscrit, réécrivez ça, c'est très intéressant. » Et donc il a réécrit Ravage, il a reporté à son patron, qui lui a dit « Ça, il n'y a pas de problème, c'est un bon bouquin. » Et il a gagné le prix à l'époque, c'était le lendemain de la guerre, il n'y avait pas le prix Renaudot, mais enfin c'était l'équivalent. Il a commencé sa carrière d'écrivain par un prix littéraire.
Alors l'histoire de Ravage, c'est l'histoire d'un cataclysme dont on ne connaît pas la cause. Dans Ravage, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'électricité disparaît. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le magnétisme, les ondes radio, il n'y a plus d'électricité. De toute façon, Ravage se passe en 2052. Donc les techniques que Barjavel anticipe extraordinairement bien quand on y pense, avaient déjà évolué. Tout fonctionnait à base d'électricité, d'ondes radio, de télévision, de choses comme ça. Donc tout s'arrête, le monde s'arrête d'un seul coup. Et les gens sont obligés, dans des grandes villes qui se sont étoffées, on peut l'imaginer, il y a des allusions à l'urbanisme frénétique de Le Corbusier, qu'il appelle le Cornemusier dans le roman. Les villes sont immenses, avec des tours. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'électricité, quand les ascenseurs ne fonctionnent plus? Ben, c'est le chaos complet. Et chacun lutte pour sa survie, pour son alimentation. Et un petit groupe mené par justement François Deschamps et son amie Blanche Rouget décide de retourner là où, dans son village d'origine, qui en fait, et on le reconnaît un petit peu par des détails géographiques, c'est Nyons. Donc ils prennent le chemin à pied de traverser la France, descendre le long de la Loire et d'aller en Provence.
Daniel Martinigol, vous êtes romancière de science-fiction. Alors les lecteurs vous connaissent peut-être pour Les Abîmes d'Outre-mer et pour Les Oubliés de Vulcain. Vous étiez aussi professeur de français. Qu'est-ce qu'il représente, René Barjavel, pour la science-fiction française?
Quelque part, il est incontournable. Il a fait partie des auteurs qui ont permis au genre de s'imposer dans le grand public. Je pense qu'il a considérablement contribué au fait que des gens qui n'avaient jamais lu de science-fiction ont découvert le genre grâce à ses livres. Et c'est sans aucun doute le plus grand mérite qu'on peut lui accorder, c'est d'avoir touché le grand public avec un genre qui, à l'époque, était encore assez spécialisé et qu'on considérait comme réservé à un public d'initiés.
Alors, dans l'histoire de la science-fiction française,
Natacha Vazder, professeure de littérature.
La Première Guerre mondiale, en réalité, va être un jalon important parce que avant la Première Guerre mondiale, il y a eu un mouvement théorisé par Maurice Renard que l'on appelait le merveilleux scientifique. Et ce merveilleux scientifique, eh bien, c'était une façon pour les auteurs, en réalité, de glorifier donc la science. On pensait que la science allait apporter un véritable progrès technologique et un progrès social. Et toute finalement cette utopie scientifique, eh bien, a eu un coup d'arrêt extrêmement brutal avec la Première Guerre mondiale, et elle a touché en réalité de plein fouet le développement de cette littérature de genre qui était l'anticipation, qui s'appellerait évidemment beaucoup plus tard la science-fiction aux États-Unis. Donc Barjavel va dans Ravage. Alors il n'y a pas d'apocalypse proprement dite humaine, puisque l'électricité est un phénomène donc naturel qui s'arrête dans Ravage brusquement et qui va donc détruire complètement la civilisation technologique de Ravage. Donc la science, oui, est véritablement perçue comme néfaste et mortifère pour l'humanité.
C'est un roman qui finit pas bien, mais aucun roman de Barjavel ne finit vraiment bien.
Pierre Creveuil. C'est un pessimiste, Barjavel ?
C'est une question qu'on lui a souvent posée, à laquelle il répondrait « Je suis pessimiste par raison et optimiste par sentiment, par attachement. Donc disons que c'était un réaliste. Il voyait bien que le monde n'était pas rose, mais il se refusait à le voir tout noir, en quelque sorte.
Bon, beaucoup de critiques l'ont taxé de pessimisme. Hein.
Jean Barjavel.
Bon, tu es en train de prédire des catastrophes, des choses comme ça, mais en fait, ça, c'était son regard sur le monde, parce que plus on regarde le monde, et finalement, moins on l'aime. Hein. Je veux dire, c'est quand même une boucherie et une sauvagerie de plus en plus féroce. Eh bien, lui, malgré tout ça, il voyait des choses positives. Alors lui, il essayait de marcher sur ses deux pieds, de voir les choses en face, de voir ce qui était beau, de voir ce qui était simple, de voir ce qui était profitable à l'homme. Voilà, c'était en fait son, comment dirais-je, sa façon de vivre. Voilà.
Ravage. L'architecture séculaire du parc de Versailles s'ornait de 127 statues de 12 mètres de haut, nouvellement installées parmi ces arbres taillés et ces allées. La plus belle de ces statues, deux fois plus haute que les autres, représentait l'intelligence. Un système d'ondes ultra courtes faisait vivre son réseau nerveux et son tube digestif. Deux fois par jour, un fonctionnaire monté sur une échelle enfournait dans sa bouche gigantesque 20 kilos de pain, 50 kilos de viande et un hectolitre de vin rouge. Chacun pouvait suivre à l'intérieur de cette merveille de l'art et de la science tout le travail de la digestion, de l'œsophage au cécum. La nuit venue, le jardin fermé, une équipe de gardes, traînant une tinette et armée de jets d'eau, venait faire faire les petits besoins et nettoyer les dessous de l'intelligence.
Pierre Creveuil, qu'est-ce qu'il remet en cause dans Ravage, René Barjavel ?
Ah ben, il remet clairement en cause, non pas le progrès, mais la dépendance, qui plus est acceptée, et même plus qu'acceptée, la dépendance désirée de l'humanité aux techniques résultant du progrès. Dans Ravage, il y a des passages où, en quelque sorte, à la gloire de la connaissance, il y a une statue de la science, mais tout cela tombe à l'eau parce que c'est un peu Rabelais, science sans conscience, des curvines de l'âme. Toute cette civilisation s'est construite de manière très artificielle, sans prendre en compte que sont les lois de la nature et les besoins humains, en fait. Une paille dans l'engrenage et tout s'effondre, l'électricité disparaît et tout s'effondre. Il a fait l'exercice logique, parce que son inspiration était plus logique qu'autre chose, que se passerait-il si l'électricité disparaissait ?
Daniel Martinigol, est-ce que René Barjavel, c'est un collapsologue avant l'heure ?
Avec Ravage, on pourrait le penser quand même, oui. Mais qui ne pense pas à ça ? Enfin, je veux dire, tout le monde pense, et puis alors d'autant plus à certaines périodes comme celle que nous vivons, mais tout le monde pense que la vie est fragile. Nous vivons sur un volcan permanent. La science-fiction l'a envisagé très souvent, tout ça. Alors, je pense pas que Barjavel était plus pessimiste que qui que ce soit d'autre, ou collapsologue, etc. Il était simplement quelqu'un qui réfléchissait peut-être à tricher un peu avec ce fameux principe de base de la science-fiction. Que se passerait-il si l'électricité disparaissait d'un seul coup de la surface de la Terre et on se retrouve avec Ravage ? Que se passerait-il si on trouvait d'un seul coup deux personnes survivantes dans les profondeurs du pôle Sud ? Eh bien oui, voilà. Et que se passerait-il si d'un seul coup il y avait quelque chose qui fixe l'immortalité ? Ça, c'est le grand secret. Et donc, on a simplement quelqu'un qui pousse peut-être simplement le curseur un petit peu plus loin pour nous faire réfléchir. Je pense pas qu'ils étaient plus pessimistes qui que ce soit d'autre. On est tous, à un moment ou à un autre, poussés à réfléchir à ce fameux « que se passerait-il si ?».
Alors, toute la première partie donc de Ravage,
Natacha Vazdeir,
est souvent un véritable bonheur pour les lecteurs et pour les gens, parce que elle décrit, on va dire, une civilisation de confort, hein, technologique absolu. Par exemple, donc on n'élève plus d'animaux, la viande, les légumes, tout est pris en charge par l'industrie. On vit avec d'ailleurs ses ancêtres, puisque on n'enterre plus donc les personnes décédées, on les congèle et on les met en scène dans des vitrines à l'intérieur des appartements. Et puis cette vision absolument idyllique va brusquement être détruite ou s'arrêter, parce que l'électricité disparaît. Je vous laisse imaginer dans tous les appartements les vitrines avec donc les cadavres des familles sur plusieurs générations qui dégèlent petit à petit. Donc voilà ce que c'est. Ravage, c'est à la fois une montée en puissance de l'utopie technologique et puis, on va dire, une dimension post-apocalyptique tout à fait terrifiante lorsque ce monde technologique est complètement aboli.
Ravage. À 129 ans, François vient de remplacer sa septième femme par une fillette de 18 ans qui, 5 mois après les noces, a revêtu avec orgueil la robe rouge des femmes enceintes. L'autorité du patriarche s'étend maintenant sur toute la région, limitée à l'ouest et au nord par le Rhône, à l'est par les Alpes et par la Méditerranée au sud. Une des lois de base de l'État nouveau est celle qui rend la polygamie obligatoire. Le choléra, l'incendie, la famine avaient laissé très peu de survivants. Et parmi ces rescapés se trouvaient environ 4 femmes pour un homme. La nature, pour repeupler le monde, avait multiplié les doux terrains de culture. Elle prévoyait que la semence ne manquerait pas. Chaque village de la vallée envoya à François sa plus belle fille en le priant de l'accepter pour femme. Il choisit les 4 de plus ferme chair, de plus clair regard, et pour donner l'exemple, y ajouta une moustachue et une boiteuse.
On est dans une utopie de la survie, c'est-à-dire que les gens qui ont réussi à survivre vont devoir reconstruire un monde. Et là, Barjavel, alors c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, crée une sorte, ce que j'ai appelé une utopie régressive. On revient vraiment à l'énergie manuelle, des gens, à la terre. Il faut repeupler. Alors ça aussi, ça a beaucoup été reproché à Barjavel. Il faut repeupler donc la terre, puisque il y a eu donc une chute démographique également dans cette suite à l'apocalypse. Et donc Barjavel met en place la polygamie pour que toutes les femmes donnent naissance donc à des enfants. Alors il avait été quand même, on a beaucoup parlé d'une vision peut-être pétainiste. Je crois que c'est quelqu'un qui était complètement fasciné par la technique et par les visions, évidemment, du monde moderne. Mais en même temps, je crois que c'était quelqu'un qui a toujours voulu rester proche de la Terre.
Chez qui il publie son roman Ravage, René Barjavel ?
Il le publie chez De Noël, puisqu'il est alors employé chez De Noël. Robert De Noël l'a aidé à écrire Ravage, hein, et il semble que De Noël l'ait dirigé vraiment la fin d'une certaine façon qui n'était pas forcément celle que Barjavel avait prévue au début.
De Noël, c'est aussi l'éditeur de Céline, de Rebattet.
Oui, alors c'est aussi l'éditeur d'Elsa Triolet. Oui, on lui a reproché, parce que De Noël avait des sympathies plutôt pour l'occupant. Après la guerre, il a été assassiné, on n'a jamais su pourquoi. Barjavel, il a été un petit peu inquiété, oui. Il a été sur une liste noire, sans preuve, sans rien qui l'appuie, parce qu'il n'y a rien dans ses écrits ni dans ses publications qui va dans un sens politique. Il a peut-être eu le tort d'être un peu trop silencieux, mais bon, il a été enlevé de la liste noire très rapidement. Et après, ça n'en a plus été question.
Alors ça, c'est un point si vous voulez, qui ne résiste pas à l'examen historique. Barjavel n'était d'abord pas du tout, pour moi, c'était pas un idéologue. On a pu lui reprocher, voyez, donc ses visions d'une utopie régressive agraire dans Ravage, mais c'est pas une apologie du péténisme. Il ne faut pas l'analyser avec évidemment la vision anachronique d'aujourd'hui.
Il y a autre chose, Natacha Vazder, c'est que Barjavel a publié Le Voyageur imprudent et puis d'autres nouvelles dans une revue qui s'appelait Je suis partout et qui était une revue collaborationniste.
Alors, donc moi je le vois plutôt, on va dire, comme une collaboration, encore une fois, opportuniste. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de publier dans ce qui est la revue, on va dire, la plus en vue de l'époque, qui est bien vue des pouvoirs publics, qui me permet aussi d'échapper évidemment à la liste auto puisque c'est une revue collaborationniste. Donc je crois que Barjavel, à mon avis, n'est pas allé chercher plus loin.
Paris, lundi 21 août 1944. Tout le monde est au balcon ou aux fenêtres. Nous regardons, nous écoutons Paris. Nous attendons l'arrivée de l'électricité pour aller écouter la radio, essayer enfin de savoir où sont ces Américains qui n'arrivent pas. Le quartier Auteuil-Passy a déjà la lumière depuis près d'une heure. On le voit à la multitude de points lumineux. Tout le reste de Paris est noir, sauf par-ci, par-là, la lumière jaune d'une bougie. L'électricité arrive juste avant le communiqué de Londres et s'éteint juste après. Une auto noire remonte la rue à toute vitesse. Trois lettres énormes, blanches, tracées sur le toit. FFI. Des croix de Lorraine sur les ailes.
Alors, l'appartement de René Barjavel, c'était un petit trois pièces, sous les toits, avec tout Paris sous ses fenêtres.
Jean Barjavel.
Et un parc avec des arbres, des marronniers, des choses comme ça. Voilà, on est au septième étage. L'été, il y avait des escadrilles de martinets qui passaient en sifflant. On était dans le ciel. Mais c'était petit, c'était un tout petit trois pièces. On était quatre là-dedans. Et alors, notre vie avec ma sœur et moi, c'était « Chut, les enfants, faites pas de bruit, papa travaille ». Voilà, donc mon père, il avait une pièce qui lui était destinée, où il travaillait. C'était une vie très simple, très joyeuse, mais très... Enfin, pas joyeuse, on faisait pas la fête tous les jours, hein. C'était pas Cotillon et Langue de belle-mère, je veux dire. Hein. Mais je veux dire, il y avait de la vie, il y avait de la lumière, on était bien. Ce petit appartement en haut du ciel, là, c'était un nid, c'était... On vivait, voilà, même si on n'avait pas beaucoup de sous, on était bien tous les quatre ensemble. Voilà.
Est-ce qu'il écrivait beaucoup, votre père ?
Il écrivait beaucoup, oui. Il écrivait beaucoup, et il se mettait le matin au boulot, et il s'arrêtait le soir. Voilà. Comme le boulanger, tous les jours, à 4 heures, il allume le four, il pétrit le pain. Hein. Et bien lui, tous les jours, à 7 heures, il était à sa table de travail. Et puis, le soir, il sortait de son bureau, il était vanné, quoi.
Pierre Crevoeil, après Ravage, toujours chez De Noël, Barjavel écrit un autre roman qui s'appelle Le Voyageur imprudent.
Oui.
C'est une suite de Ravage, c'est ça ?
C'est pas vraiment une suite. En revanche, Le Voyageur imprudent, c'est une histoire dans l'inspiration de Wells de La Machine à explorer le temps. Donc, la voyageur temporelle, grâce à un procédé très astucieux, et qui va dans le futur et qui passe après 2052 et qui voit qu'il s'est passé quelque chose et qui entend parler de François Deschamps et de la civilisation qui a été construite là-dessus. Donc, il y a un petit rappel de Ravage. Mais le voyageur imprudent va beaucoup plus loin. Il va au 100 000e siècle. Enfin, il voit une civilisation où les êtres humains n'ont plus grand chose d'humain, mais sont devenus un petit peu comme des sociétés d'insectes. D'ailleurs, la partie qui en parle s'appelle le voyage entomologique. C'est-à-dire, il y a des mâles qui sont des petits bonshommes qui courent dans tous les sens, dont l'unique préoccupation est d'aller dans une montagne creuse où se trouve une énorme femelle qu'il s'agit de féconder en se faisant plus ou moins aspirer par elle. Bon, c'est un peu tragique, mais en même temps, c'est décrit avec une pointe d'humour. Peut-être qu'il voyait là une possibilité que l'humanité devienne fonctionnelle, effectivement. C'est peut-être ce qu'il a alarmé, ce qu'il a voulu, non pas dénoncer, mais prévenir.
Le voyageur imprudent. Un bruit furtif me fit retourner. Bouleversé, je me trouvais en face d'un homme. Il était nu. Si vous vous trouvez tout à coup en face d'un de vos semblables dépourvus de vêtements, sur quelle partie de son corps portez-vous aussitôt les yeux? Je n'échappais pas à ce réflexe, dû sans doute à d'obscurs refoulements. Mais rien ne s'offrit à ma vue. Le bas de ses ventres bruns était lisse et nu. Je me dis qu'en 1000 siècles, l'organe de la reproduction pouvait bien, après tout, avoir changé de place. Mais je le cherchais en vain, et cette recherche me causa bien d'autres surprises. Les muscles fessiers de ces êtres étaient soudés en une seule masse demi-sphérique, polie comme un vieux cuir. L'anus, lui aussi, avait disparu. Par contre, la poitrine s'était développée vers le bas, aux dépens de l'abdomen résorbé. Les côtes descendaient jusqu'aux cuisses. L'homme de l'an 100 000 n'avait pas de tripes.
Daniel Martinigol, Barjavel dans Le Voyageur imprudent, il parle d'une question, d'un thème récurrent de la science-fiction qui est le paradoxe temporel.
Le paradoxe temporel, c'est simplement que si on voyage dans le temps, on court quelque part le risque de changer les choses. Le paradoxe temporel, résumé d'une façon très simple, c'est quelqu'un qui voyage dans le passé, rencontre son grand-père, tue son grand-père. Que se passe-t-il? Ce grand-père n'a pas eu le temps d'avoir lui-même un fils, ce fils n'a pas le temps d'avoir des enfants. Donc que devient notre personnage qui est parti d'une date précise pour aller dans le passé à l'époque de son grand-père et éliminer son grand-père? C'est quelque chose qui est jubilatoire. Enfin, c'est pas très gai à lire obligatoirement, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a une gymnastique intellectuelle, il y a une recherche à la fois de l'auteur qui demande justement la complicité du lecteur pour rentrer dans le jeu. Quand on aime lire ce genre de choses, c'est vraiment un régal.
La description de l'an 100 000 dans Le Voyageur imprudent, c'est aussi évidemment une occasion que prend Barjavel pour parler de son époque à lui. Qu'est-ce qu'il lui reproche, Barjavel, à l'homme du XXe siècle?
Alors, en réalité, l'homme du XXe siècle est un homme industrialisé.
Natacha Vazdeir.
Ce qu'on va retrouver comme critique vraiment récurrente dans les romans de Barjavel, c'est que l'homme se transforme en machine et que l'homme, en fait, industrialise le vivant. Et cette industrialisation en fait du monde va en quelque sorte couper l'humain de son rapport à la nature. On va retrouver par exemple cette image dans Le Diable l'emporte, où là les manipulations génétiques par exemple et l'industrialisation du vivant va faire que les héros par exemple vont se promener à un moment donné dans une serre géante où les poireaux ont la taille des arbres, les champignons sont des champignons absolument gigantesques. Et par exemple, à un moment donné, il va y avoir une poule géante, enfin qui subit des mutations, mais malheureusement, il n'arrive pas à arrêter la croissance de cette poule qui va vraiment devenir énorme, immense, qui va créer donc beaucoup de dégâts. Eh bien, c'est très exactement l'allégorie de cette industrialisation que nous ne pouvons pas arrêter et qui risque de détruire l'humanité. Vous voyez, donc on est au-delà finalement de l'apocalypse, de la peur d'une apocalypse nucléaire. Pour Barjavel, l'industrialisation, c'est la mort du travail, c'est la mort de l'homme, c'est la mort du vivant.
Le diable l'emporte. À hauteur des yeux du civilisé, sur le mur, une maxime resplendit en lettres rouges. Le travail, c'est la liberté. le civilisé étend le bras droit et l'index. Juste sous la pointe de son doigt, monté sur un socle, se trouve un bouton. Il appuie son doigt sur le bouton. Une voix compte. 1, 2, 3. C'est fini. Sa journée de travail est terminée. Les jours impairs, il se sert du bras gauche.
Vous connaissez Don Camillo. C'est le curé de ce petit monde entre le fleuve et la montagne, quelque part en haut de l'Italie. Ce petit monde où il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Et Don Camillo entre pour la première fois dans ce qui représente son église.
Oh Seigneur, vous êtes encore plus mal logé que moi. Oh, ce n'est pas pour me plaindre, Seigneur. Mais vraiment, est-ce que nous avons mérité ça, hein?
Pierre Creveuil, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Comment René Barjavel passe de précurseur de la science-fiction à scénariste et dialoguiste de Don Camillo?
Eh bien, c'est une péripétie de sa vie, je pense. Alors, faut voir qu'il est passé de journaliste à scénariste. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé chez De Noël, il était salarié de chez De Noël, mais il avait d'autres activités d'écriture et il était journaliste, il était critique de films dans des hebdomadaires. Donc, il commençait à avoir une bonne connaissance du monde du cinéma, des acteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène. Après la guerre, il a écrit ses romans de science-fiction. Le troisième n'a pas eu beaucoup de succès. Le diable l'emporte. Bon. Donc, il y a eu une période de vache maigre. Il a eu une maladie assez grave qui l'a amené à s'éloigner de Paris, à aller en convalescence dans le sud de la France. Et là, il continuait son activité, alors de critique de cinéma, de critique d'émissions de radio, qui étaient surtout des fictions radiophoniques. Et puis, il avait des contacts dans le monde du cinéma, et après, il est rentré, comme on dirait en anglais, writer, comme écrivain dans le monde du cinéma pour faire des scénarios. Il n'a pas fait tout de suite les Don Camillo, il a d'abord fait des films complètement oubliés, bon, des choses qu'on ne connaît plus, mais effectivement, Don Camillo, c'est vraiment ce qui a eu du succès avec les différents épisodes de Don Camillo, le retour de Don Camillo, etc.
Et après, ça a été le deuxième, après, ça a été le troisième, et puis après, je ne sais pas, il y en a eu combien. Et effectivement, il s'est encore partagé entre le cinéma, la littérature, et puis aussi, il a travaillé pour le Journal du Dimanche. Il publiait un article, voilà, sur l'actualité. Et les gens se précipitaient dessus. Les tirages du Journal du Dimanche ont fait un massacre. Hein. Alors là, effectivement, si vous voulez, on avait quitté l'appartement de trois pièces à la rue Lacretelle et on avait pris un appartement plus vaste où on était à l'aise. Enfin, c'est un bel appartement, quoi, disons, hein. Un bel appartement dans le 7e arrondissement où chacun avait ses aises, etc. Donc voilà, la vie avait changé. On a vu défiler chez nous, à notre table, un tas d'artistes.
Alors Fernandel, par exemple.
On a vu Fernandel, on a vu Gérard Philippe, on a vu Gabin, on a vu défiler tout le Gotha du cinéma. C'était sympa, quoi. C'était rigolo.
Louis de Funès. Louis de Funès, oui, enfin, Fernandel. Ben oui, Don Camillo, mais il a fait aussi Le Mouton à cinq pattes, qui est très drôle, que moi, je trouve plus drôle que Don Camillo. Après, il a été ami avec Kayat, qui avait fait des films plus de société, et c'est avec Kayat qu'il a eu le projet de faire un film de science-fiction, une histoire de quelque chose découvert sous la banquise du pôle Sud, etc. Les réalisateurs contactés ont trouvé ça pharaonique du point de vue budget et ça n'a pas été plus loin, sauf qu'il en a fait un roman, La Nuit des Temps, qui a quand même été son grand succès.
Comment est-ce que vous l'avez découvert, vous, Daniel Martinigol, René Barjavel ?
J'avais la chance d'avoir un libraire, j'habitais en Côte d'Or. près de Beaune, et j'avais un libraire à Beaune qui était un monsieur, un vieux monsieur absolument charmant, chez qui j'allais régulièrement pour lui demander s'il avait de nouveaux livres de science-fiction. Donc à l'époque, c'était la collection du Fleuve Noir Anticipation. Et ce vieux monsieur prenait assez régulièrement auprès des éditeurs qui lui proposaient des titres un ou deux ou trois livres de science-fiction en pensant à moi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs et surtout pas beaucoup de jeunes filles lectrices de science-fiction à l'époque à Beaune. Et un jour, il m'a dit, j'en ai là un qui devrait te plaire, parce qu'il me tutoyait, et il m'a sorti La Nuit des Temps. Je vous l'ouvre. Alors donc, sur la page de garde, j'avais écrit 10 octobre 69, c'est-à-dire 7 jours de mes 20 ans, et j'ai écrit en dessous pour mes 20 ans, en me précisant à moi-même que je m'étais offert ce livre pour mes 20 ans. Et donc, si on ouvre à la page suivante, donc sur la deuxième page, il y a un petit rond avec des petits rayons et un petit soleil. Et à côté, il y a écrit à Daniel Léna. Il y a le nom de Léna, puisque c'était mon nom à l'époque. À Daniel Léna, pour lui souhaiter de garder ses 20 ans pendant 1000 siècles, très chaleureusement, Barjavel, 12-6-80. Voilà, donc c'est la date où il m'a dédicacé ce livre, et j'y tiens beaucoup. Et voilà, je connais les premières lignes par cœur. « M'a bien aimé, m'ont abandonné, m'a perdu, je t'ai laissé là-bas au fond du monde. Vous attesterez que j'avais refermé le livre. » C'est l'incipit de La Nuit des Temps, et pour moi, c'est un roman qui m'a vraiment profondément marqué.
Qu'est-ce que c'est l'histoire de La Nuit des Temps ?
C'est une histoire d'amour. C'est la seule chose que je répondrais. C'est une magnifique histoire d'amour. C'est en même temps l'histoire de la bêtise humaine. Et puis une histoire triste. Enfin, c'est pas particulièrement optimiste quand même comme roman.
La nuit des temps. Il faudrait savoir à quelle température il se trouve. Notre civilisation n'a jamais réussi à obtenir le zéro absolu. Mais il semble que ces gens disposaient d'une technique supérieure. Ils y sont peut-être parvenus. Le zéro absolu, c'est l'immobilité totale des molécules. C'est-à-dire qu'aucune modification chimique n'est possible. Aucune transformation, même infinitésimale. Or, la mort est une transformation. Si au centre de ces blocs règne le froid absolu, cet homme et cette femme se trouvent exactement dans le même état qu'au moment où ils y ont été plongés. Et ils pourraient rester ainsi pendant l'éternité. « Il y a une façon bien simple de savoir s'ils sont morts ou vivants, » dit la voix de Simon dans le diffuseur. « Et en tant que médecin, j'estime que c'est notre devoir. Il faut essayer de les ranimer. »
Alors, Barjavel écrit, 20 ans plus tard, écrit une science-fiction tout à fait différente.
Natasha Vazdeir.
Qui n'a plus tout à fait la même portée critique que l'on pouvait percevoir dans le style de Barjavel, dans Ravage, Le Voyageur Imprudent, par exemple, ou Le Diable l'emporte. On est dans une science-fiction qui se rapproche beaucoup plus du grand public. Et là, je pense qu'on a quand même l'influence complète du cinéma sur la science-fiction de Barjavel. C'est une histoire de Tristan et Iseu pris dans les glaces. C'est-à-dire que Barjavel va introduire beaucoup plus de romanesque. Ces histoires d'amour vont être des histoires d'amour passionnelles qui vont d'ailleurs passionner donc le public. Hein. Cette histoire d'amour que vous avez dans La Nuit des Temps est une des raisons pour laquelle ce roman est devenu donc un véritable, ce qu'on appelle un page-turner, hein, c'est-à-dire un roman qui va être donc retiré à plusieurs donc millions d'exemplaires. Et l'histoire, je crois, les personnages vont prendre le pas sur la critique dans cette deuxième partie en fait de la carrière d'écrivain de science-fiction de Barjavel.
Et donc l'histoire, c'est qu'on trouve sous l'Antarctique une civilisation humaine, c'est ça ?
Alors on trouve d'abord, on détecte sous la glace un signal ultrasonore la communauté internationale décide de creuser un puits de cette profondeur-là et découvre en dessous les ruines d'une civilisation humaine, effectivement, techniquement très avancée, puisque dans une sphère en or se trouve congelé au zéro absolu, donc dans de l'hélium liquide, un couple, un homme et une femme, qui sont parfaitement conservés, qu'on arrive à réveiller et qui racontent toute l'histoire de la fin de la civilisation qui a, là encore, est disparu dans un cataclysme, mais cette fois, un cataclysme qui était rien d'autre qu'une guerre atomique de grande ampleur qui a détruit toutes les civilisations et même fait basculer la Terre sur son axe, d'où la congélation de cette zone géographique qui autrefois était tropicale, d'après le roman.
Alors, encore un cataclysme et une apocalypse. René Barjavel, c'est un obsédé de l'apocalypse ?
Oui, ces romans finissent presque toujours finissent ou commencent, hein, mais il y a toujours un cataclysme, ravage. Le voyageur imprudent, non, quoique à la fin, il y a une sorte de dissolution du personnage qui est presque pour lui un cataclysme. Le diable emporte, oui. La nuit des temps, oui. La tempête, plus tard, oui. Le grand secret, en quelque sorte. Finit par une explosion atomique qui détruit une utopie. En fait, les utopies chez Barjavel se finissent mal. Mais est-ce que c'est pas le propre de toutes les utopies d'être tellement irréalisables qu'elles ne peuvent que finir et plutôt mal?
La nuit des temps. Combien de temps croyez-vous avoir dormi? Elle le regarda avec inquiétude. « Quelques jours, dit-elle. » De nouveau, le regard d'Eléa fit le tour du décor et des personnages qui l'entouraient. Elle retrouva le dépaysement de son premier réveil, tout l'insolite, tout le cauchemar. Mais elle ne pouvait pas accepter l'explication invraisemblable. Il devait y en avoir une autre. Elle essaya de se raccrocher à l'impossible. « J'ai dormi combien de temps? Des semaines? Des mois ?» Plus, dit Simon, beaucoup plus. Vous avez dormi pendant... Attention, Simon, cria le beau, vous allez lui donner un choc terrible. Il vaut mieux lui dire peu à peu. Simon était sombre. Il fronçait les sourcils d'un air têtu. Je désire savoir, recommença Eléa. Simon se tourna vers elle. Il lui dit brutalement, vous avez dormi pendant 900 000 ans.
Paris, 16 novembre 1981. Eh bien, j'ai survécu, et le monde aussi. Frère, tournez-vous à gauche. Frère, tournez-vous à droite. Que voyez-vous? Je ne vois que l'horizon qui flamboie et la bêtise qui poudroie. Les hommes sont gouvernés par des fous assis sur des barils de poudre et qui jouent avec des allumettes tout en se lançant au visage des colombes dont chaque plume est une lame. Un jour, ça va saigner. Un jour, ça va sauter. Frère, voilà ce que je vois. Dois-je espérer quand même? Dois-je continuer de faire ce qu'il faut pour vivre? Oui, il faut continuer de vivre. Bien sûr, il faut espérer. La vie est belle, et l'espérance est violente. Laissons-nous violenter par elle. Cela ne peut pas se terminer sur la terre, au moment d'aboutir, en un fiasco absurde.
Daniel Martin-Eagle, qu'est-ce que c'est que la pensée de René Barjavel? Qu'est-ce qu'il essaie de transmettre dans ses romans?
L'envie de continuer. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Même si ça peut paraître pessimiste, je crois qu'il avait sans doute envie d'être un passeur peut-être de rêve, d'imagination, de réflexion, de lucidité. Il était très porté, je pense, sur l'écoute aussi d'autrui. C'est ce qui s'est passé avec moi, hein. Il aurait très bien pu ne jamais répondre à ma première lettre.
Cette lettre, c'est votre premier contact avec Barjavel, mais plus tard, vous l'avez rencontré.
Oui, je lui ai... Alors, je pense que soit j'ai téléphoné au journal du dimanche, enfin, je sais plus, j'avoue qu'il s'est passé quand même pas mal de temps, jusqu'à ce que je le contacte pour le faire venir dans une de mes classes. J'étais enseignante en lycée technique à l'époque, dans l'Essonne. Il fallait quand même oser leur balancer la nuit des temps en lecture obligatoire. Et il y avait quelques filles, mais pas beaucoup dans la classe. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. À un moment donné, j'ai dit que j'avais eu des contacts avec l'auteur. Et donc, pour ma maîtrise. Et je ne sais pas si c'est venu des élèves. Probablement, peut-être venu des élèves. Ah bon, et on ne pourrait pas le voir, nous aussi. Et c'est comme ça que je l'ai contacté et qu'il est venu jusqu'à Brétigny-sur-Orge, puisque ça se passait à Brétigny-sur-Orge, rencontrer ma classe. C'était très chaleureux. Je me souviens que ça s'est très bien passé. Je n'ai même pas fait de photo, alors encore moins un enregistrement. Mais je sais que c'était absolument inquantifiable sur le coup, mais que les élèves en sont restés très marqués. Et que certains qui n'avaient peut-être pas lu le livre jusqu'au bout, au premier abord, s'y sont remis. On a recommencé à lire votre livre, on a fini de lire votre livre et on entendait votre voix.
Je suis un homme moyen, petit-fils de paysan, du côté de mon père aussi bien que du côté de ma mère, fils d'ouvrier, mon père était ouvrier boulanger. Je suis donc la première génération qui ne travaille pas de ses mains et j'en souffre. Souvent et beaucoup, parce que le stylo est vraiment un objet incongru, c'est quelque chose, c'est une fabrication artificielle, ça sert à faire des gribouillis sur du papier, ce n'est pas du travail. Et toute ma vie, j'ai souffert de ce besoin de me dépenser physiquement, de faire un travail vrai, et que je puisse voir, qui sorte de mes mains. Tandis que écrire des romans, parler à la radio, apparaître sur l'écran de la télévision, tout ça, au fond, c'est du vent et de la fumée. On sème, on croit semer des idées, mais ces idées, quelles que soient les idées qu'on puisse avoir, quelqu'un les a déjà eues avant. Et de toute façon, le succès, une certaine renommée, bon. Vanité.
Vous regrettez, René Barjavel, de ne pas être boulanger ?
Oui, oui, oui. Je ne regrette pas de faire le métier que je fais, puisque je l'ai fait et je pense que on ne peut pas changer de voie lorsqu'on a été aiguillé de très bonne heure. Mais il est certain que j'aurais été un bon boulanger, un boulanger heureux. Tandis que je ne suis pas certain d'être un bon écrivain et d'être un homme heureux.
Pierre Creveuil, est-ce que Barjavel a écrit sur son rapport à la mort ?
Un peu, mais ce n'est pas ce qui me vient immédiatement à l'esprit. Il y a dans La fin du tigre, et Si j'étais Dieu, des pensées, des réflexions sur la vie et la mort. La mort ne se séparant pas de la vie. Ce qui le choquait beaucoup, c'est le fait que pratiquement tous les vivants, sous une forme ou une autre, ont besoin de tuer pour se nourrir, donc de tuer d'autres vivants. Mais c'est pas pour ça qu'il en faisait un fondement de doctrine, en quelque sorte.
24 janvier 1985. Je suis entré ce matin dans ma 75e année. Ça commence à faire beaucoup. J'aime la vie, chaque seconde de la vie. Je n'ai jamais été indifférent, j'ai regardé, écouté, goûté, touché, respiré, aimé. Aimé toutes choses et toutes choses belles et laides, émerveillé par les miracles qui m'entourent et dont je suis fait. Je suis un univers de miracles, je le sais. Je n'ai pas envie de mourir, mais je crois que j'ai assez vécu.
Quand est-ce qu'il est mort, René Barjavel ?
Eh bien, il est mort dans la nuit du 24 au 25 novembre 1985. Il est mort à Paris d'une sorte de crise cardiaque, en fait. Il avait passé la journée dans un collège, le collège Stanislas, près de Montparnasse, où il était souvent invité par les écoles, par les lycées. Donc il avait passé la journée, ça devait être probablement un samedi ou un dimanche, avec les élèves du collège, une sorte de petite fête, de réunion. Il en est sorti, et là, il a fait une crise cardiaque dans la rue, devant un restaurant. Donc le restaurant qui allait ouvrir, c'était en début de soirée, l'a emmené dans le restaurant, il est resté là, les secours ont été appelés, sont venus assez tardivement, de ce que j'ai pu apprendre. Il a été emmené au Val-de-Grâce, à l'hôpital du Val-de-Grâce, et il est décédé dans la nuit.
Et il laisse un essai inachevé.
Voilà, il était en train d'écrire « Demain le paradis », donc qui est son dernier livre, qui est un essai sur sa vision de ce que le futur pourrait être, essentiellement en tenant compte des progrès techniques ou des avancées de la science et de la civilisation.
Voilà, il sentait venir sa mort prochaine, il le savait. D'ailleurs, il l'a écrit dans « Demain le paradis ». Il est temps de poser le baluchon, quoi. Mais il ne nous a pas complètement abandonnés. Hein. Il suffit d'ouvrir un de ses bouquins et on retrouve son esprit, son humour, sa poésie, sa légèreté. On retrouve tout ça. Hein. Voilà.
Merci beaucoup, Jean Barjavel.
Je vous en prie.
Merci, merci beaucoup.
Chaque instant est l'éternité. Je sais que ceux qui m'attendent ne m'apportent rien de plus. Je sais peu de choses. Je ne saurai rien de plus. J'ai atteint mes limites. Je les ai bien emplies. Je me suis bien nourri d'être autant que je pouvais à ma dimension. Et de petits savoirs et de grandes joies émerveillées. Et maintenant, je voudrais faire comme mon chat après son repas. M'endormir.
René Barjavel, Le monde dans le pétrin. Avec Natacha Vazdeir, Daniel Martinigol, Jean Barjavel et Pierre Creveuil. Lecture, Cécile Arnaud pour les extraits des romans de René Barjavel et Alain Rimoux pour ses récits autobiographiques. Toute une vie, coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre. Un documentaire d'Yvon Croisier et Romain Weber.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoutez bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre, Elna Fraisse et Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.